Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens de ce mercredi 6 décembre 2017. Hélène Denis avec vous. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Bien vous-même.
Ben, ça va bien, merci. Malgré une petite peine au cœur, je l'aimais jusqu'à un certain point, là, pas comme en France, mais Johnny Hallyday s'est éteint, on s'y attendait. Il s'est éteint le jour de votre anniversaire, le 5 décembre.
Oui, je m'en souviendrai.
Oui, et puis on en parle partout dans les journaux, j'y reviendrai, puis on va écouter des chansons de John Hallyday. Oui, oui. Vous en avez fait jouer déjà tantôt?
Non.
Finalement, ça
n'a pas donné.
Avec les voix de service magazine? Bien, on va se reprendre avec le quotidien des quotidiens. Alors, aux éphémérides aujourd'hui, Maurice, on vous écoute.
Oui, aujourd'hui, le 6 décembre, c'est la fête de la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qu'on peut considérer peut-être comme l'ancêtre du Père Noël.
Oui.
Qui est célébré dans beaucoup de pays d'Europe du Nord et de l'Est. Donc, on pense à l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique. La Croatie, dans le nord de la France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, la Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Suisse. Donc, bonne fête, Saint-Nicolas. Quelques événements. En 1492, Christophe Colomb atteint l'île d'Hispaniola, qui aujourd'hui qui plus tard sera divisée en deux, qui ça comprendra le Haïti et la République dominicaine. En 1900, donc, ça leur donne 112 ans aujourd'hui, en 2017. 117 ans, oui. À Lévis, Alphonse Desjardins et sa femme Dorimène Roy et quelques concitoyens fondent les premières caisses populaires. Ça se passe un 6 décembre. En 1907, à Badec, en Nouvelle-Écosse, Thomas Selfridge réussit le premier vol au Canada avec un cerf-volant conçu par Alexandre Graham Bell. Ben, tiens. En 1917, le Parlement de Finlande proclame son indépendance. Grande tragédie ici au Canada en 1917, je l'ai appris tout à l'heure. Après avoir frappé un autre bateau à Halifax, le cargo français Mont-Blanc, chargé de benzol, d'acide picrique et de TNT, prend feu et dérive vers un quai où s'assemblent beaucoup de curieux. mais c'est pas drôle.
Non.
L'explosion tue plus de 1800 personnes et rase 2,5 km² du quartier nord de la Halifax. Ouais.
En 1917?
Oui, voilà 100 ans, donc grosse tragédie. En 1921, l'institutrice ontarienne Agnès McPhail, de 30 ans, devient la première femme élue aux communes. Toujours en 1921, Londres et Dublin signent un traité de paix créant un État libre d'Irlande. En 1929, bien avant nous au Québec, en Turquie, les femmes obtiennent le droit de vote. Bravo. En 72, le vaisseau lunaire Apollo 17 est lancé. En 1989, à l'Université de Montréal, ça c'est un triste événement qui s'est passé ici au Québec. Le déséquilibré Marc Lépine qui tue 14 filles à l'école polytechnique avant de s'enlever la vie. Donc, on se rappelle de ça en 1989.
Oui, et puis on se remémore aujourd'hui au monument du 6 décembre 1989. Et on pense évidemment aux victimes, puis à tous les proches.
Les proches et la famille.
Tragédie sans nom.
En 1990, la Cour suprême du Canada déclare valide l'âge obligatoire de retraite qui, certes discriminatoire, se justifie pour le bien commun. Mais entre-temps, ça a changé. M. Harper nous a prolongé ça maintenant, l'âge de la retraite. C'est 67 ans au Canada. J'ai deux ou trois naissances. Le jazzman américain Dave Brubeck naissait en 1920. Et c'est drôle, il est mort hier.
Mais oui, c'est drôle et c'est pas drôle, là, mais l'ensemble de bizarre,
En frais de temps.
Oui, donc, quand il est né, il ne savait pas qu'il allait mourir.
Le lendemain de sa fête. Ouais. La veille de sa fête. Il est mort à quasiment 92
donc,
ans.
Donc, il est né le 6 décembre en quelle année?
1920 et décédé le 5 décembre 2012.
Parfait.
Donc, ça lui donne quasiment 92. On va dire 92 pour une journée.
Ah, il est venu au Festival international de jazz de Montréal pendant longtemps.
Oui. Mm-hmm.
Il a continué à faire de la musique vieux.
Oui, donc prolifique. En 1935, oui, Jean Lapointe, auteur, compositeur, interprète, humoriste, acteur et même sénateur, naît en 1935, oui.
Ah,
et en 1896, Ira Gershwin, c'est le frère de George Gershwin, parolier américain. Donc,
c'est pas une femme, Ira. C'est un homme.
Non, c'est un homme.
Oui, oui.
C'est le diminutif d'Israël, en fait. Il se faisait appeler Ira, mais c'est Israël. C'est un beau prénom quand même.
Très beau.
Oui. Et on souligne un décès, le chanteur-compositeur américain Roy Orbison.
Ah oui!
Il a fait quelques hits.
Belle voix, cet homme.
Oui, oui, oui. Donc, ça fait le tour de ce 6 décembre.
Merci. Merci, Maurice. À la une de la presse plus, sur la sellette, à la lumière d'un rapport accablant, le chef de la police de Montréal, Philippe Pichet, pourrait être contraint de démissionner ou se voir montrer la porte par le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux. À ce sujet, la chronique de Patrick Lagacé, « Les folies ont assez duré ». La chronique d'Yves Boisvert, « Les coyotes préfèrent le 514 ». Exclusif à la presse, médecins québécois, les demandes de soutien ont explosé. Et art, Johnny Hallyday 1943-2017, le roi Johnny n'est plus, la chronique de Mario Girard et un survol de la carrière de la légende française. Le chef du SPVM sur la sellette, texte de Pierre-André Normandin, Denis Lessard, Tommy Chouinard, Vincent Larouche, le rapport sur les pratiques internes au service de police de la Ville de Montréal, commandé par Québec dans la foulée de l'affaire Lagacé, est dévastateur pour le corps policier. Écorché, le chef Philippe Pichet pourrait être forcé de démissionner, sans quoi il risque le congédiement. Selon des sources fiables, tout indique que le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, suggérera aujourd'hui le remplacement du chef de police de Montréal à la suite de dépôt du rapport commandé à Maître Michel Bouchard. À l'issue de son enquête administrative, celui-ci a constaté que l'équipe de direction mise en place n'a pas été en mesure de régler les problèmes minant le SPVM, un dur constat. Radio-Canada a rapporté hier soir que le rapport commandé à Maître Bouchard serait rendu public aujourd'hui à l'issue d'une rencontre du Conseil des ministres. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a reçu les recommandations jeudi dernier. Tant à son bureau qu'à celui du premier ministre, on se refusait toutefois à tout commentaire hier soir. Des échos avaient toutefois commencé à transpirer jusqu'à l'Hôtel de Ville de Montréal, où son contenu est décrit comme « dévastateur pour le SPVM », selon ce que la presse a pu confirmer. Devant ces constats, nos sources ont indiqué que Philippe Pichet serait contraint de démissionner, sans quoi il serait congédié. Des sources policières ont indiqué que le rapport était dur avec le chef de police et l'ensemble de l'administration du corps policier. On constate des problèmes qui ne se règlent pas en dépit des changements et du temps passé. Le SPVM ne parvient pas à régler ses enquêtes internes qui se retrouvent systématiquement dans la Cour de la Sûreté du Québec. Alors, je vais vous lire la chronique de Patrick Lagacé, « Fini les folies ». Probablement que Philippe Pichet ne sera plus directeur du service de police de la Ville de Montréal ce soir. Le rapport de Michel Bouchard, commandé par le gouvernement, serait dévastateur pour le SPVM et par la bande pour la gestion de M. Pichet. C'est ce que Sébastien Beauvais de Radio-Canada a lancé au téléjournal hier soir. C'est ce que la presse a pu confirmer après. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a confié à Michel Bouchard le mandat de passer le SPVM au rayon X pour faire un diagnostic du mal qui ronge la police de Montréal depuis des années. Ce mal, c'est un mal organisationnel dont le symptôme le plus visible demeure les guerres de clans qui minent tout l'organigramme de la base à la tête. Les histoires de rivalité qui divisent les policiers de Montréal, surtout les enquêteurs et les cadres, sont légendaires depuis des décennies. Les coulisses du SPVM, je l'ai déjà dit, c'est Game of Thrones qui rencontre House of Cards. Il y a évidemment des rivalités dans tous les milieux de travail, mais dans les coulisses du SPVM, il y a des rivalités et des inimitiés qui se sont réglées avec des moyens d'enquête criminelle, ce qui est évidemment cinglé. Les affaires internes ont été à ce point éclaboussées par des enquêtes journalistiques depuis un an que la Sûreté du Québec a dû refaire des enquêtes menées par ses policiers du SPVM qui enquêtaient sur les policiers du SPVM et en ouvrir de nouvelles tant les allégations d'irrégularité étaient nombreuses. Une anecdote pour illustrer le climat de paranoïa, les affaires internes espionnaient les conversations du policier A dans le cadre d'une enquête criminelle. Le policier A appelle une amie, la policière B. Celle-ci peste contre un patron, séance de défoulement entre collègues. Eh bien, après l'arrestation de A, la policière B s'est fait reprocher en discipline d'avoir tenu des propos déloyaux à l'égard d'un supérieur. Je rappelle que cette conversation était privée. Des anecdotes semblables, on en trouve à la pelletée au SPVM. Si le rapport de Michel Bouchard est aussi dévastateur qu'on le dit, le gouvernement du Québec aura un motif raisonnable pour enclencher la destitution du chef Philippe Pichet. Et s'il n'est pas divorcé du réel, M. Pichet va démissionner avant d'être éjecté. Je n'ai pas lu le rapport de Michel Bouchard. Il doit être rendu public aujourd'hui. Je ne sais pas si la gestion de Philippe Pichet qui est visée ou si Maître Bouchard estime, après des mois d'enquête, que M. Pichet n'a pas les qualités requises pour redresser un des plus importants corps de police au Canada. On verra. Je dirai ceci. Au sujet de M. Pichet, on le sentait plein de bonne volonté. Il entreprit une réforme interne pour redresser le SPVM. Mais on ne l'a jamais senti en contrôle de ce corps de police immense et complexe. Dans ses mémoires, Denis Coderre pourra peut-être nous expliquer pourquoi il trouvait que Philippe Pichet était le meilleur candidat disponible en 2015. Toujours est-il qu'à la fin d'octobre, le chef de cabinet de M. Pichet a été relevé de ses fonctions. Imad Sawaya s'est retrouvé dans la ligne de mire d'une enquête criminelle de la SQ, une affaire de vol de temps. La SQ a perquisitionné au quartier général du SPVM, image forte, forte et humiliante pour la police de Montréal. M. Sawaya avait été choisi par M. Pichet pour occuper ce poste. Depuis un an, c'était le quatrième proche de M. Pichet ciblé par une enquête de la SQ, après Bernard Lamotte, Patrice Vilsius et Costa Labosse. Le chef Pichet semblait avoir peu de flair pour s'entourer. Mais le mal qui ronge le SPVM n'a pas commencé avec Philippe Pichet. C'est un mal profond qui a traversé les administrations. Quand un directeur quitte la tête du SPVM, s'enclenchent de véritables courses à la direction, avec des clans qui font tout pour faire trébucher les adversaires. Cette culture des clans et des intrigues est contre-productive et monopolise une trop grande partie du cortex cérébral du SPVM. On peut parier que bien des dirigeants haut placés du SPVM rêvent de succéder à Philippe Pichet. Des appels se font, des couteaux s'aiguisent, la solution facile ce serait de trouver un bon candidat ou une bonne candidate à l'interne. Mais le gouvernement du Québec, qui choisit ultimement le chef du SPVM sur recommandation de la Ville de Montréal, devrait cependant utiliser le principe de précaution et refuser de nommer un directeur ou une directrice issue de la culture de rivalité qui pourrit la police de Montréal. On ne peut pas nommer quelqu'un qui a grandi dans cette culture pourrie pour la casser. Pour nettoyer l'air au SPVM, souhaitons donc que si M. Pichet est remplacé, le ministre Coiteux s'arrange pour nommer un ou une civile à la tête de cette police à la dérive, quelqu'un qui ne devra rien à quiconque qui a grandi professionnellement. Les policiers et policières, selon ce qui circule, ne protesteront pas très fort. J'espère aussi que le ministre Coiteux n'hésitera pas à mettre le SPVM en tutelle pour donner les coups des franches à la personne qui devra requinquer cette organisation, si nécessaire. Les folies ont assez duré. Exclusif, hausse marquée des demandes de soutien dans le programme d'aide aux médecins. En 2016-2017, 701 médecins ont interpellé leur programme d'aide aux médecins, PAMQ, ou ont eu besoin de son soutien ponctuel en groupe. C'est une augmentation de 40 % de nouveaux cas par rapport à l'année précédente, attribuée notamment à l'onde de choc qui a suivi le suicide d'au moins 6 de leurs confrères et à la pression accrue qu'ils subissent ces derniers temps. Les Nations unies ont annoncé hier avoir reçu des promesses de dons s'élevant à 857 millions US pour venir en aide à 67 millions de réfugiés et apatrides dans le monde entier en 2018. Il s'agit de la somme la plus élevée jamais promise au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés lors de sa conférence annuelle de collecte de fonds. Et mort d'une idole, Johnny Hallyday est parti, a annoncé sa femme Laetitia au cours de la nuit. Âgé de 74 ans, Jean-Philippe Smet, qui souffrait d'un cancer du poumon, n'aura jamais cessé d'être un rocker. On y reviendra aux actualités culturelles, mais pour l'instant, voici Johnny Hallyday.
À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu, il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee.
Quelque chose de Tennessee. Et comme disait le président français, on a tous quelque chose de Johnny.
John Hallyday est mort, c'est en une du Devoir, une grosse photo de John Hallyday, véritable monstre du rock français, et il est mort dans la nuit de mardi à mercredi à 74 ans d'un cancer du poumon. « Le patron de l'UPAC a des comptes à rendre. Le ministre de la Sécurité publique exige un plan pour assainir le climat de travail. Toujours en une du Devoir, Jeux olympiques exclus de Pyeongchang, la Russie mise au pied du mur. Art visuel, le goût du beau au quotidien. L'œuvre du designer Michel Dallaire présentée à Québec. On voit une photo de pot de yogourt en 2009. Aliment Ultima bouscule les codes dans le secteur de l'emballage grâce à un pot de yogourt révolutionnaire, oblongue plutôt que rond, conçu par Michel Dallaire. Au pays du bilinguisme et du multiculturalisme, le commissaire aux langues officielles désigné a semé la consternation dans les rangs de l'opposition à Ottawa en s'exprimant sur le bilinguisme des juges de la Cour suprême. Éducation, apprendre à conjuguer la déficience à l'âge adulte. Et un autre grand qui nous a quittés, l'immortel espiègle Jean d'Ormesson n'est plus. La décision du Comité international olympique, CIO, d'exclure la Russie des Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang a provoqué mardi un tremblement de terre dans le monde du sport. Cette sanction sans précédent dans l'histoire de l'olympisme, provoquée par la découverte d'un système de dopage institutionnalisé, met le gouvernement russe au pied du mur. Il s'agit d'une attaque sans précédent contre l'intégrité des Jeux olympiques et du sport, a déclaré mardi le président du CIO, Thomas Bach, au sujet du stratagème mis en place par la Russie lors des Jeux de Sotchi pour manipuler le système antidopage. L'annonce du CIO a été accueillie avec soulagement par plusieurs comités olympiques, à commencer par celui du Canada. Les sanctions annoncées aujourd'hui sont encourageantes et nous espérons qu'elles seront porteuses de changements positifs pour le sport propre et éthique, a déclaré la présidente du Comité olympique canadien, Tricia Smith. Comme c'est toujours le cas lorsqu'il est question de Jeux olympiques, la décision du CIO dépasse le simple cadre sportif, note le professeur de géographie à l'UQAM, Éric Mottet, qui s'intéresse aux liens entre sport et politique. Le sport faisait partie de la grande réflexion de Vladimir Poutine sur le retour de la Russie sur l'échiquier mondial, rappelle-t-il. Il est évident que d'être au banc du monde sportif, ça va être un coup dur pour le pays. Son collègue de l'UQAM, Yann Roche, spécialiste de la géopolitique du sport, souligne cependant que la Russie fera sans doute valoir que son exclusion est un plan orchestré par les Américains ou les pays occidentaux pour la faire mal paraître. Et Maurice vient de voir que la Russie ne boycottera pas les Jeux olympiques de Pyeongchang. Maintenant, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, savait depuis un certain temps que le climat de travail est délétère au sein de l'Unité permanente anticorruption, UPAC. Or, il a attendu à mardi pour demander au commissaire à la lutte contre la corruption, Robert Lafrenière, de lui faire rapport de l'état d'esprit de ses troupes et d'énumérer les mesures retenues afin d'améliorer les relations de travail. Le document, qui est exigé d'ici le 19 janvier prochain, sera rendu public, a averti M. Coiteux. Les deux rapports internes sur le climat de travail à l'UPAC que réclament les partis d'opposition et les médias depuis le printemps resteront, quant à eux, secrets. Québecor Média a diffusé mardi le contenu de l'un de ces deux rapports. Dans celui-ci, la Direction des ressources humaines du ministère de la Sécurité publique met en lumière le climat de travail malsain du service de vérification de l'UPAC, formé de 40 employés et dirigé par Marcel Forget jusqu'à jeudi dernier. M. Coiteux a refusé de dire s'il a déjà vu le rapport éventé par Québecor Média. « Ce n'est pas un rapport qui appartient au ministère », s'est-il contenté d'affirmer dans une mêlée de presse. Il a toutefois prétendu que le document contient des données nominatives et confidentielles. En dépit des crises qui secouent l'UPAC, le ministre Martin Coiteux et le premier ministre Philippe Couillard ont tour à tour réitéré mardi leur confiance à l'endroit du grand patron de l'UPAC, Robert Lafrenière. Le directeur général des élections du Québec a mis à l'amende mardi un proche de Philippe Couillard qui aurait été impliqué dans la sollicitation illégale de contributions financières pendant la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Par ses actes, Marc G. Bruno aurait aidé Éric Ouimet à solliciter des contributions, même si ce dernier n'était pas le représentant financier de Philippe Couillard, a écrit le directeur général. Les faits qui sont reprochés à Marc G. Bruno remonte à 2012-2013 et sont passibles d'une amende minimale de 500 $. Je n'ai jamais eu l'intention d'aller à l'encontre de la loi électorale, dit Marc G. Bruno, solliciteur libéral. Même si la loi 122 sur l'autonomie municipale a aboli les plafonds salariaux des élus municipaux, l'administration de Valérie Plante a décrété un gel de la rémunération des élus montréalais pour 2018. Les nouvelles règles pourraient cependant conduire à des inéquités entre les municipalités. L'Union des municipalités du Québec surveille de près la situation et compte mettre à jour au cours des prochains mois le guide sur la rémunération des élus qu'elle a élaboré en 2015 afin de donner des points de repère aux élus en matière de rémunération. Avant l'adoption du projet de loi 122, Québec déterminait des rémunérations maximales pour les maires de Montréal et de Québec, ainsi que des autres élus en fonction du nombre d'habitants. Et les régimes publics de retraite au Canada offrent une belle flexibilité aux travailleurs qui voudraient pouvoir se retirer à leur rythme, mais ils restent moins généreux que ceux de la moyenne des pays développés, même après ces dernières réformes, constate l'OCDE.
Fanny Bloom qui nous chantait Petit Bois.
À la une du Journal de Montréal de ce mercredi 6 décembre 2017, Johnny Hallyday meurt à 74 ans. On voit Johnny Hallyday vêtu de noir, accompagné de sa guitare. Démission ou tutelle, les heures du chef de police de Montréal sont comptées. Montréal a déjà offert le poste du chef de police à ses deux adjoints. Philippe Pichet démissionnera, sera suspendu ou son service sera mis sous tutelle. Signe que les heures de Philippe Pichet sont comptées à la tête de la police de Montréal, deux de ses adjoints se sont fait proposer hier le poste de chef par la direction générale de la ville. Article de Félix Séguin et Antoine Lacroix du bureau d'enquête et du Journal de Montréal. Selon ce qu'a appris notre bureau d'enquête, les assistants directeurs au service de police de la Ville de Montréal, Simonetta Bart et Claude Bussière, ont tous deux refusé l'offre de l'administration de Valérie Plante par loyauté à Philippe Pichet. Nommé chef en 2015, Pichet a vu son règne être taché par plusieurs controverses, comme la décision du SPVM d'espionner les communications de journalistes. Le scandale avait mené à la création de la commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques. Barrette rate son objectif. Quelques 2200 Québécois patientent pour une chirurgie depuis plus d'un an, malgré l'objectif de Quentin Barrette d'éliminer complètement cette liste d'attente à la fin de 2017. Le ministre de la Santé annonçait en novembre 2016 un investissement de 20 millions de dollars pour réduire les délais d'attente en chirurgie. La mesure visait notamment à faire en sorte que les 3980 personnes qui patientaient depuis plus d'un an et non pas 1000 personnes, comme soutenu à ce moment par le ministère, soient opérées avant la fin de l'année 2017. Or, selon des données obtenues auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux via l'accès à l'information, près de 2200 patients figuraient toujours sur cette liste à la mi-octobre. Si le dénombrement a presque fondu de moitié, la cible ne sera tout de même pas atteinte. « On n'arrivera pas à zéro », a concédé M. Barrette hier en entrevue avec notre bureau parlementaire. Canadienne pour le bras de François. La relique visitera 14 villes, dont Montréal et Québec. L'avant-bras droit de Saint-François-Xavier, une relique sacrée de l'Église catholique vieille de 465 ans, entreprendra au début de l'année 2018 une tournée de 14 villes canadiennes. On espère intéresser le plus de gens possible pour cet événement qu'on peut qualifier d'historique. Ce serait la première fois que la relique viendrait au Canada. Et c'est très rare qu'elle obtienne l'autorisation de sortir de Rome, se réjouit Debra Prou, présidente du conseil d'administration de Catholic Christian Outreach, l'organisme qui a organisé la venue du symbole. L'avant-bras droit de Saint-François-Xavier, qui aurait baptisé plus de 100 000 personnes lors du passage du missionnaire en Asie, partira de Rome, où il est précieusement gardé dans la principale église jésuite. Il aura son propre siège dans l'avion lorsqu'il traversera l'Atlantique. Il fera sa première apparition publique à Québec le 3 janvier. La relique de première classe, selon les catégories déterminées par le Vatican, fera l'objet d'une surveillance en permanence au cours de sa tournée canadienne. L'avant-bras préservé dans une boîte en verre luxueuse n'aurait pas connu le processus de décomposition naturelle. Miraculeusement, son corps ne s'est pas décomposé. On s'entend, le bras ne semble pas vivant, mais il est tout de même très bien conservé, explique Debra Prou. Le manque de main-d'œuvre préoccupe Philippe Couillard. La pénurie de main-d'œuvre au Québec est le principal défi économique auquel le Québec fait face en 2017, devant celui posé par la négociation de l'accord de libre-échange nord-américain avec les États-Unis, croit Philippe Couillard. Si on n'agit pas de façon plus vigoureuse pour corriger le manque de main-d'œuvre, les conséquences pour notre économie, pour nos emplois, seront négatives, a expliqué le premier ministre lors du discours d'ouverture du Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination qui a lieu à Québec hier. Je placerai ce défi au-dessus même des enjeux que nous présentent les accords de commerce actuellement, a-t-il ajouté. Pour arriver à relever ce défi, le Québec doit inévitablement faire appel à l'immigration, même si ce n'est pas la seule solution, a-t-il rappelé. Il faut continuer à mieux former, mieux outiller les jeunes. Une mère prête à tout pour sauver son fils malade. Il n'y a rien d'autre. C'est une chance qu'on prend, mais c'est la seule qu'on a, confie Julie Monette en caressant les cheveux de son fils Mathieu. Il est atteint de la maladie neurodégénérative gangliosidose à GM2 variant AB, un diagnostic qu'il a reçu à l'hôpital Sainte-Justine après plus de 2 ans d'examen. Une maladie si rare qui serait actuellement le seul cas connu au monde, selon ses médecins, révèle sa mère. « C'est la loterie de la malchance », dit avec un sourire résigné la femme de 41 ans. La résidente de Sainte-Justine de Newton en Montérégie a même lancé une campagne de sociofinancement afin d'amasser le million de dollars nécessaire à un chercheur de Kingston en Ontario pour développer un traitement expérimental. « C'est épeurant parce qu'il n'est qu'au stade des souris, mais moi j'y crois », lance Mme Monette à propos des travaux du docteur Jacques Deep Walia. Elle l'a trouvé par hasard en fouillant sur Internet lors d'une de ses nombreuses nuits blanches à chercher un miracle pour son fils qui n'aurait plus que 2 ans à vivre. « Quand tu te fais dire que ton fils ne connaîtra pas l'adolescence, c'est la fin du monde », souffle Julie Monette. La famille se bat maintenant pour obtenir un traitement alors que la maladie est techniquement incurable. Il prend désormais un médicament expérimental qui semble ralentir la progression de la maladie alors qu'il est gavé et confiné à un fauteuil roulant. Un peu moins d'un an après sa création, la boutique en ligne qui vend des objets s'inspirant du réseau du métro et des autobus de la Société de transport de Montréal connaît une popularité qui traverse les frontières du pays. On a même vu de l'intérêt pour ses produits en Australie et aux États-Unis, s'est réjoui le président de l'entreprise montréalaise Motivo, Luigi Vanditelli, lors de la visite hier d'un atelier dans l'arrondissement Saint-Laurent, où une partie des produits dérivés sont confectionnés. La filiale commerciale de la STM, Transgesco, a conclu un partenariat avec l'entreprise montréalaise spécialisée en création d'objets promotionnels Motivo, afin de lancer cette boutique en ligne en février. Depuis, plusieurs milliers de produits ont été vendus et le nombre d'objets à l'image de la STM est passé d'une centaine à plus de 400 dans 8 catégories différentes. Les 10 véhicules les plus volés en 2017, les 3 modèles les plus dérobés au Québec sont des VUS et camions de marque Toyota. Les voleurs de véhicules s'intéressent de plus en plus aux camionnettes ou pick-up, d'après ce que révèle la liste annuelle des 10 véhicules les plus fréquemment volés au Québec, publiée aujourd'hui par le Bureau d'assurance du Canada. Alors, le top 3 des véhicules les plus volés au Québec, première place, Toyota Camion Van 4Runner 4P 2016, un VUS. Deuxième place, Toyota encore Camion Tundra 4RM 4 roues motrices 2015, une camionnette. Et troisième place, encore une Toyota Camion Van 4Runner 4P 2015, un VUS. « Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, donne jusqu'à vendredi à la Corporation des services d'ambulance du Québec pour reprendre les négociations avec le gouvernement, à défaut de quoi il envisagera le recours à une loi spéciale. Une femme de Danville, en Estrie, a été victime d'une agression sexuelle et d'une tentative de meurtre dans la nuit de dimanche à lundi après avoir placé une annonce pour une chambre à louer sur le populaire site Kijiji. Le suspect dans cette affaire, Anthony Bergeron, 25 ans, se serait présenté chez la femme pour visiter l'endroit. Mais la victime aurait refusé de louer la chambre à Bergeron, ce qu'il n'aurait pas digéré. Le suspect aurait ensuite agressé sexuellement la femme à plusieurs reprises en la menaçant avec un marteau. Il aurait ensuite tenté de noyer la femme dans le bain. La victime aurait toutefois réussi à convaincre Bergeron de l'épargner en lui remettant ses clés de voiture. La femme a communiqué avec les policiers dès que le suspect a quitté les lieux. Ceux-ci sont parvenus à localiser et à arrêter Anthony Bergeron peu de temps après les événements. Sans domicile fixe, Bergeron devait comparaître hier à Sherbrooke sous des accusations de tentative de meurtre, agression sexuelle armée, agression sexuelle causant des lésions, séquestration et vol.
Je connais pas le nom des étoiles dans le ciel, ni des rivières, ni des oiseaux. Honte à moi trop souvent, je connais pas le chemin qu'il me faudrait prendre pour être content. Je connais pas la couleur d'un bill de vin. Je connais même pas le nom de mon voisin. Je connais rien. Mais il va toujours y avoir la neige au mois de janvier. Il va toujours y avoir un feu de forêt dans le temps des bleuets. Toujours y avoir du vent sur le Saint-Laurent. Tu peux pas changer ça. Chante-moi pas. De l'eau dedans mon vin. Y vas-tu toujours y avoir quelque chose en moins quand tout ce que t'as c'est une tranche de pain? Et des fois je me dis que je sais d'où c'est que ça vient. Y en a qui ont tout pis toutes les autres y ont rien. Change-moi ça.
Très belle chanson de Richard Desjardins interprétée par Philippe B. On vient d'entendre « Il va toujours y avoir ».
Les journaux régionaux dans le quotidien de Jonathan Hudon. Fausse nouvelle, Yates pointe Facebook du doigt. Les réseaux sociaux, en particulier Facebook, sont à l'origine de la propagation accrue des fausses informations qui pullulent sur Internet et qui peuvent même éventuellement contaminer les médias traditionnels. C'est du moins l'avis de Jeff Yates, spécialiste de la désinformation sur le web. Le journaliste, chroniqueur et blogueur donnait une conférence mardi soir à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière dans le cadre du carrefour de rencontres entre étudiants et professionnels, le CREP. Une fausse nouvelle, c'est lorsque quelqu'un fait exprès pour mettre de l'avant une fausse information dans le but de tromper les gens, a mis en contexte l'invité du colloque d'art et technologie des médias. Au cours de son allocution de près d'une heure donnée devant plus de 100 personnes, dont la grande majorité étaient des étudiants, Jeff Yates a indiqué que depuis que Facebook était devenu une source d'information, la donne avait complètement changé. Il a rappelé que lors de sa création, le plus grand réseau social au monde n'était pas destiné à informer, mais bien à permettre à un groupe de gens de rester en contact. Facebook a en quelque sorte remplacé une salle de nouvelles, a comparé Jeff Yates. À l'aide d'une image, il a indiqué que le rédacteur en chef avait été remplacé par l'ami qui croit aux ovnis, que les pupitreurs avaient été remplacés par l'ami anti-vaccin et que « ma tante Joanne », entre guillemets, avait pris la place des journalistes. Facebook nous met face à une situation unique et nouvelle dans l'histoire et c'est difficile de la gérer, a reconnu le blogueur. Jeff Yates a poussé la réflexion en rappelant que chaque fois qu'on cliquait « j'aime » sur un article ou qu'on le partageait, on faisait de la publicité pour quelqu'un. On ne sait pas à qui ça profite et même si ça peut paraître anodin, il faut se poser la question, a souhaité Jeff Yates, rappelant qu'il n'y a rien que l'on fait sur Facebook qui est sans conséquence. Quoi faire? Maintenant, quelles sont les solutions pour éviter de voir apparaître de fausses informations sur son fil d'actualité? Le chroniqueur a expliqué que Facebook avait lancé un programme de signalement de fausses nouvelles, mais ce filet comporte certains risques. Par exemple, une bande de fanfarons pourrait décider de signaler chaque article d'un média traditionnel, contrecarrant les plans du réseau social. Jeff Yates invite surtout les utilisateurs à redoubler de prudence, à employer de bonnes pratiques sur les réseaux sociaux et à afficher un sens critique développé. Il y a un phénomène bizarre qui existe, c'est-à-dire que les gens vont mettre leur sens critique de côté lorsque quelque chose les fait réagir, a remarqué l'invité du CREP. Le présentateur de la conférence, Éric Arsenault, y est allé d'une affirmation intéressante en introduction lorsqu'il a dit que la conférence de Jeff Yates devrait être obligatoire à toute personne qui s'intéresse à l'information. En effet, les observations du blogueur poussent à la réflexion et remettent en question nos façons d'analyser une information véhiculée sur une plateforme. Jeff Yates a débuté sa carrière au journal Métro en 2013, où il signait le blog L'Inspecteur Viral. Depuis le début de l'année, il est à l'emploi de Radio-Canada. Le CREP se termine mercredi midi avec une conférence grand public sur la réalité virtuelle donnée par le président et producteur chez Figure 55, Pascal Pelletier. La chronique de Mylène Moisan dans Le Soleil d'aujourd'hui, infirmière cherche emploi désespérément. Quand Justine Testaert a visité le Salon de l'emploi de Paris, son regard a été attiré par une publicité du Québec. On recrutait. Justine est infirmière en France depuis 6 ans. On lui a dit qu'il manquait cruellement d'infirmières, qu'elle serait embauchée tout de suite. Dans un autre événement, il y avait un kiosque du Québec. On m'a dit « pas de problème, vous allez avoir du travail ». Elle allait voir sur Internet, voyait bien qu'on s'arrachait les travailleurs de la santé. Elle est partie avec cette idée-là. Elle en a parlé à son mari, qui se disait lui aussi qu'il arriverait à dénicher un boulot. Avec sa maîtrise en développement de réseau commercial, son expérience en gestion et comme directeur des ventes, ne lui manquait qu'un permis de travail. Elle s'est inscrite au programme fédéral de permis vacances-travail, qui fonctionne par tirage au sort. Son nom est sorti. Elle a aussi fait les démarches à distance auprès de l'Ordre des infirmières, a rempli la paperasse et payé les 800 $ requis. Elle est inscrite en bonne et due forme depuis le 12 octobre. Maximilien et elle ont laissé leur emploi. Ils ont tout vendu, déterminés à venir faire leur vie de ce côté-ci de l'Atlantique. De là-bas, la communication que nous recevons est qu'il y a du travail ici, qu'il manque de main-d'œuvre, insiste Maximilien Ménard. Pourquoi Québec? J'ai habité ici à l'âge de 12 ans. 12-13 ans avec mes parents, explique Justine. J'en ai gardé un très bon souvenir. Ils sont débarqués en ville le 5 octobre, il y a 2 mois exactement, sûrs de trouver rapidement du travail. Nous avons galéré d'abord juste pour arriver à comprendre comment ça marche. Nous sommes encore au point zéro, déplore Maximilien qui a envoyé 200 CV depuis. Des employeurs ont levé la main, mais l'ont baissé tout de suite quand ils ont su qu'ils n'avaient pas de permis de travail. En plus des quelques milliers de dollars à débourser, une entreprise qui veut l'embaucher doit démontrer avoir tenté en vain de trouver un candidat québécois, démarche qui peut prendre jusqu'à 6 mois. Il continue d'envoyer des CV. En arrivant, Justine a appris qu'elle devait d'abord effectuer un stage de 75 jours pour obtenir son droit de pratique. Elle a donc contacté le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. On lui a répondu ceci. Nous vous remercions de l'intérêt manifesté pour faire un stage à notre institution. Actuellement, il nous est impossible de répondre à votre demande. Depuis le 21 février 2015, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada exige de nouvelles dispositions de la part des employeurs canadiens qui accueillent des étudiants étrangers. En raison de ces nouvelles dispositions, nous vous informons qu'un moratoire a été imposé à compter du 1er septembre 2015, et ce, pour une période indéterminée. Nous sommes sincèrement désolés qu'il en soit ainsi et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués, entre parenthèses, sic, parce qu'on écrit distingué au pluriel. On ne l'a donc pas accordé à sentiment. Le moral de Justine en a pris un coup. Elle s'est trouvée un boulot comme vendeuse pour avoir un revenu en attendant. La situation a d'ailleurs été dénoncée l'année dernière par l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec dans un mémoire déposé en commission parlementaire. L'Ordre calculait que le Québec se privait de 400 infirmières par année qui, comme Justine, étaient prêtes à travailler et à qui on avait fait miroiter la promesse d'un emploi. Justine ne baisse pas les bras. J'ai commencé à faire des démarches pour le Saguenay et pour Charlevoix. On m'a dit que j'aurais peut-être des chances pour un stage dans Charlevoix. Ça fait 3 semaines que je les ai contactés. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Si rien ne se passe, il va falloir se tourner vers Montréal. Ils aimeraient mieux ne pas aller à Montréal. J'ai appelé le CIU3S pour en savoir plus sur ce mystérieux moratoire et pour savoir pourquoi on levait le nez sur une infirmière formée, motivée, avec 6 années d'expérience dans différentes unités. La responsable des communications, Annie Ouellette, m'a expliqué que le stage de 75 jours doit être effectué en soins aigus et qu'à Québec, ce sont les hôpitaux qui ont la responsabilité de ces soins. Le CIU3S ne s'occupe que d'un hôpital, celui de Charlevoix, et il n'y aurait pas de moratoire. Au contraire, on est présentement en processus de sélection pour les entrevues. On a des besoins. Le téléphone de Justine sonnera peut-être bientôt. Au Centre hospitalier universitaire de Québec, il a été impossible d'en savoir davantage. Le temps presse. Le permis de Justine a une durée limitée, tout comme le visa de touriste de Maximilien. Pour qu'il puisse obtenir son visa ouvert, elle doit travailler comme infirmière, une affaire de catégorie d'emploi. Je ne sais même pas si le stage sera compté comme un emploi. On risque d'être hors délai pour Maximilien. Fascinante bureaucratie. Vous en voulez une meilleure? Justine a contacté la semaine dernière l'organisme Recrutement Santé Québec, dont la mission est précisément de recruter des travailleurs de l'étranger pour pallier la pénurie au Québec. Je les ai appelés pour pouvoir parler à quelqu'un, pour savoir ce que je pouvais faire. On m'a répondu que les recruteurs étaient en mission à Paris pour trouver des candidats. Dans le Nouvelliste, incendie suspect à la crèmerie des Trois-Rivières. Un violent incendie a complètement ravagé une partie de l'ancienne crèmerie des Trois-Rivières au centre-ville tôt mardi matin. Le bâtiment historique qui a abrité pendant 107 ans cette entreprise trifluvienne a été rasé du côté de la rue Bonaventure, laissant du même coup croire aux pompiers qu'il pourrait s'agir d'un incendie suspect. « Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Avenir, actualité culturelle, on parlera évidemment de Johnny Hallyday. On écoutera aussi une chanson de Johnny. Et puis, il y aura aussi les sujets libres.
Comme une croix dans le dos, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son en bouquet de laser. À force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier. À force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto. À force d'être indien, Ensemble sous bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. De briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes sous des lumières bizarres. À force d'oublier qu'il y a la société, m'arrachant du sommeil pour me faire chanter. À force de courir sur les routes du monde, pour les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde. À force d'être enfin sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur, le violent admirable, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. Mm-hmm.
Johnny Hallyday, la pièce « J'ai oublié de vivre ».
Oui, les hommages pleuvent à propos de Johnny Hallyday et non Holiday, comme j'entends une fois de temps en temps. Johnny Hallyday, 1943-2017, le dernier roi du rock, texte de Sylvain Cormier dans Le Devoir, en compagnie de l'agence France Presse. Le rockeur français Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi à 74 ans d'un cancer du poumon annoncé tard mardi à l'agence France Presse, son épouse Laetitia. Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie. Avec courage et dignité, écrit-elle dans un communiqué. Détecté dans les poumons de la star en novembre 2016, le cancer aura terrassé en un an celui que tous ses admirateurs croyaient invincible. Depuis, les témoignages émus affluent. Johnny est parti. Mon dernier roi du rock n'est plus. Le fan en moi savait que c'était imminent. On le savait tous depuis l'annonce prématurée de la semaine dernière, mais on ne voulait pas, sans doute par respect, le compter pour mort avant que ça arrive. On le soutenait de près ou de loin, son épouse Laetitia, leurs filles Jade et Joy, sans oublier David Hallyday, fils de Sylvie Vartan, et Laura Smith, fille de Nathalie Baye, sa cohorte d'amis, nous tous. Le Johnny adulé depuis 1960 par des millions d'admirateurs de tous âges en France, en Europe et jusqu'ici. Johnny Hallyday, l'indestructible, le survivant, le gagnant de tant de batailles, le chanteur le plus immensément populaire, le plus célébré de la francophonie, est tombé au combat dans la nuit de mardi à mercredi chez lui. Le cancer des poumons a mené et gagné le dernier assaut. Quand je l'ai rencontré pour la dernière fois en février 2012, écrit Sylvain Cormier dans Le Devoir, on avait d'abord parlé de la mort, ça me revient en tête. À l'époque, une opération bâclée à Los Angeles avait bien failli l'emporter. Je lui avais lancé « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est vrai ça ?» Il avait répondu en souriant de son incroyable sourire, le même sourire qu'il servit à sa marraine Lynn Renault lors de son premier passage à la télévision. C'est vrai, quand on s'en sort, on avait tous ri fort dans la loge. Il était ce soir-là l'invité vedette de Star Academy. Pour cette émission, Julie Snyder m'avait demandé d'écrire une mini-biographie en narration d'un film de montage, non seulement pour le présenter, mais pour expliquer Johnny au Québec. Trouver les mots qui donneraient la mesure de sa démesure et qui diraient pourquoi on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Comme disait la chanson écrite pour lui par Michel Berger. Et pourquoi tant de gens ont en eux quelque chose de Johnny aussi? Le montage avec mes mots dit par Julie fut montré à l'auditoire et à la télévision en présence de Johnny qui se tenait prêt à chanter le premier de deux medleys. J'avoue, j'étais drôlement content, fier qu'il voie et entende ça. Je l'avais interviewé souvent, vu en spectacle encore plus souvent. La première fois en 1975 à la Place des Nations, une bonne dizaine de fois ensuite. Mais mon grand moment, Johnny, c'était ça. Permettez-moi d'en reprendre le verbatim. J'ai écrit beaucoup à propos de lui en 27 ans de journalisme musical, mais cette fois-là, j'avais tout mis. Alors, on y va. Il a vu le jour dans Paris, occupé par l'Allemagne nazie le 15 juin 1943. Et comme il le dit dans la chanson, « Je suis né dans la rue ». Il s'appelle Jean-Philippe Smet, mais on le connaît mieux sous le nom de Johnny. Il est né en mode survie, et c'est encore un survivant aujourd'hui. Il a été le démon blond du rock'n'roll en France, et il a donné « envie d'avoir envie », citation de chanson, à toute une génération. Il s'est réinventé 100 fois, et il a survécu à toutes les modes. Il a été twist, yé-yé, soul man, hippie, biker. Il a même été Hamlet et il a joué au cinéma pour Godard dans Détective et Costa Gavras dans Conseil de famille. Mais surtout, surtout, il n'a jamais cessé d'être Johnny, le gars pour qui on craque lorsqu'il sourit. Il a survécu à des accidents d'auto, des mariages et des divorces, à une tentative de suicide, à une opération ratée, à 180 tournées où il a tellement toujours tout donné qu'il lui est arrivé de sortir de scène sur une civière. Il a survécu à sa propre démesure et à toutes les caricatures et même à sa marionnette des guignols de l'info. Il a enregistré 1000 chansons qui ne sont pas toutes aussi formidables que Les Portes du pénitencier, Noir c'est noir, Que je t'aime, Ma gueule ou Quelque chose de Tennessee. Mais il les a toutes chantées avec cette voix fabuleuse qu'il a. Et il y a dans presque chacune un moment où il pousse la note et cette note-là, oh, cette note-là, elle nous a. On ne l'a pas vu assez souvent au Québec pour que ça se sache comme ça devrait, mais il est depuis plus de 50 ans le plus grand showman de France et parfois même, certains soirs, le meilleur du monde entier. Le 10 juillet prochain, il va s'emparer des plaines en vedette du festival d'été. Et enfin, enfin, on va être des milliers et des milliers à hurler « Johnny! » Mesdames et messieurs, Johnny à l'aider. Et puis Johnny arriva sur une passerelle qui avança et surplomba le public. Il commença par allumer le feu. J'étais au premier rang et c'était géant, comme toutes les autres fois. Les 3 soirs de suite au Saint-Denis en 2000, les 2 soirs au Centre Bell et la grande fois sur les plaines en 2012. Et le spectacle de ses 50 ans à La Rochelle. À Lyon, dans le stade Gerland, où tout le monde chantait toutes les chansons avec lui. Et son showcase en anglais à Cannes, au temps de l'album Rough Town, où j'étais avec André Ménard, celui du Festival de jazz de Montréal, grand fan lui aussi. Les autres passages au Québec, c'était dans les années 1960 à la Place des Arts au Centre Paul Sauvé, au Colisée de Québec aussi. Je mentionne tous ces spectacles parce que Johnny Hallyday vivait pour la scène. Même affaibli par la maladie l'été dernier, il aura réussi à se rendre au bout de la tournée des « Vieilles canailles » en compagnie de Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Mardi de la semaine dernière, j'avais Eddie Mitchell au bout du fil pour parler de son nouvel album « La même tribu, volume 1 ». On avait évoqué Johnny, forcément. 60 ans d'amitié, ça compte. D'autant que Johnny chante avec Eddie sur ce disque de duo. Le temps de reprendre, c'est un « rocker ». Commentaire de l'ami, l'ado des années 1950 au square de la Trinité, puis le jeune homme du golfe Drouot, lieu de naissance du rock en France. On est demi-frères d'abord. Et je suis l'aîné. Et faut pas l'oublier, j'ai un an de plus. C'est moi qui donne des leçons. Je plaisante. Je dis simplement que Johnny et moi, on est complètement différents et complémentaires. C'est-à-dire que Johnny a survécu à toutes ces métamorphoses. Il se la jouait Clyde Barrow de Bonnie and Clyde, devenait hippie, se transformait en Mad Max, et chaque fois, ça marchait. C'est ça qui est fabuleux. Moi, ça, j'ai jamais su faire ça. C'est un battant. C'est quelqu'un qui a une force herculéenne envers la vie et qui est pour moi un Elvis Presley. Il est encore plus fort que Presley parce qu'il a eu la force de durer. Avec Isabelle Boulay, rencontrée ce lundi dans son atelier en vue de sa prochaine tournée québécoise, on avait aussi Johnny près du cœur. Elle a chanté souvent avec lui. J'en retiens la splendide ballade « Tout au bout de nos peines ». Je peux pas croire. Je l'ai vu tellement de fois se révéler, se relever. Il avait toujours des vies en réserve. M'arrêter là, rester vivant. Il a si souvent chanté sa volonté de vivre. Je ne peux pas imaginer le perdre. Moi non plus. J'avais 7 ans quand il me chantait le thème du feuilleton télé « Les Chevaliers du ciel, aventure des aviateurs Tanguy et la verdure, adaptation de la bande dessinée ». Je l'entends encore me la chanter. « Les Chevaliers du ciel pensent parfois à ce jour où ils verront leurs ailes se plier pour toujours. » Salut Johnny, tu auras été mon dernier roi du rock'n'roll.
Pénitencier, bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini.
écoutez-moi. Ne laissez jamais vos garçons. C'est la nuit que les gens des rues, ils iront tout droit en prison. Il faut les oublier. Les portes du pénitencier.
Johnny Hallyday en public, c'était le pénitencier version française de House of the Rising Sun, comme si la pièce originale n'avait jamais existé.
Sujet libre, front commun contre Ottawa, c'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Des personnalités représentant de différents milieux lancent un cri d'alarme. Mobilisation massive contre Ottawa en provenance du Québec. Artistes, producteurs, diffuseurs et gens d'affaires s'unissent pour décrier la politique du fédéral face aux géants étrangers du web tels que Netflix, Amazon et Google. Dans une publicité située aux pages 52 et 53 du Journal de Montréal, ce collectif regroupant plus d'une centaine de membres dénonce les orientations du gouvernement Justin Trudeau qui fragilise la culture québécoise et canadienne en permettant à Netflix et compagnie d'échapper aux taxes que toutes les entreprises d'ici doivent prélever. Il faut corriger cette injustice qui pénalise nos entreprises, nos artistes, nos artisans et nos travailleurs. Peut-on lire dans un court texte entouré de nombreuses signatures. Parmi les personnalités du milieu culturel à avoir ratifié ce message, signalons Martin Matt, Guylaine Tremblay, Mitsou Gélina, Patrick Huard, Louis Morissette, Karine Vanasse, Jean-Philippe Dion, Denis Arcan, Charles Lafortune, Denise Filiatro, Yann Englan, Stéphane Laporte et Fabienne Larouche. Chez les diffuseurs, TVA, Bell Media, V, Télé-Québec, Cogeco et TV5 font partie des adhérents. Du côté des gens d'affaires, citons Alexandre Taillefer, Pierre-Carl Pelladeau et Peter Simons. La SOCAN, la CSN, la FTQ et Evenco font également partie du lot. Cette montée aux barricades survient après plusieurs mois de vives critiques du milieu culturel québécois contre Ottawa. Dévoilée en septembre, la politique culturelle de Mélanie Joly, ministre du Patrimoine, a été la cible de nombreuses attaques. Son refus de taxer Netflix a été vivement dénoncé puisqu'il crée une iniquité envers les services du genre au pays comme Club Illico et ici Tout TV Extra. Même le gouvernement de Philippe Couillard a décrié cette exemption. En octobre, le ministre des Finances du Québec, Carlos Letao, a indiqué qu'il était prêt à imposer la TVQ aux géants du streaming. Au cours des dernières semaines, des intervenants de plusieurs horizons ont demandé au fédéral de revoir sa position, histoire que Netflix, mais aussi Google, Amazon, Facebook et autres Apple soient soumis aux mêmes règles que toutes les autres entreprises québécoises et canadiennes en matière de fiscalité. C'est encore dans le Journal de Montréal. Denis Villeneuve, honoré à l'UQAM, le cinéaste québécois se dit touché par ce geste très symbolique. Il a beau avoir déjà gagné des prix dans les plus grands festivals du monde. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que le cinéaste Denis Villeneuve a reçu hier un doctorat honorifique de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, 30 ans après y avoir fait ses études en cinéma. Le réalisateur de Blade Runner 2049, Incendie et L'Arrivée, a reçu ce prestigieux diplôme hier matin à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts lors de la collation des grades de l'UQAM. Après avoir eu droit à une ovation de la part des centaines de diplômés présents, Villeneuve a prononcé un discours empreint d'humour dans lequel il a fait l'éloge de la lenteur. « Je n'ai pas de félicitations à recevoir et je ne suis pas un exemple à suivre. Pour obtenir ce doctorat, ça m'a pris 30 ans et j'ai dépensé plus de 300 millions de dollars », a indiqué le cinéaste québécois, en référence au budget de l'ensemble des films qu'il a tournés jusqu'à maintenant. Pour la suite des choses, Denis Villeneuve a répété qu'il souhaitait prendre son temps avant de se lancer dans le tournage d'un nouveau film. Tout juste sorti de l'aventure Blade Runner 2049, il se consacrera pour l'instant à l'écriture d'une nouvelle adaptation cinématographique du roman de science-fiction Dune, qui devrait être son prochain film. C'est dans la section Opinion de la presse d'aujourd'hui, 6 décembre 1989, une date qui dérange, texte de Sylvie Aviernik, sœur de Maud pour toujours. Il y a 28 ans, le 6 décembre 1989 marquait un tournant dans l'histoire des gens de ce pays, certainement dans l'histoire des femmes d'ici. Un moment d'une rare violence dans notre société moderne. En effet, un homme pourtant jeune, ayant en main une arme semi-automatique, parcourait les étages de l'École polytechnique de l'Université de Montréal et assassinait 14 femmes, nos filles, nos sœurs, nos conjointes, nos amis. Et maintenant, chaque année, surtout depuis que cette journée a été décrétée Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, d'un océan à l'autre, au Canada, nous prenons un moment pour arrêter, respirer et parler d'elles, E majuscule, et de toutes celles qui doivent affronter cette violence. Cette année, un groupe d'individus nous ont demandé de nous taire, de ne plus nous rappeler nos 14, et surtout de ne plus pleurer. La principale raison invoquée par ces gens, lassitude, colère de se voir associé indirectement au profil de l'assassin. Je regrette, mais jamais, non, jamais, personne ne pourra me demander que je cesse de penser, de parler de ma sœur Maud, jamais. Et s'il nous faut parler des causes de la violence et des moyens utilisés pour nourrir cette violence, eh bien, je vais en parler. Et étonnamment, je crois que je ne serai pas seule. Car depuis cette triste fin d'après-midi de décembre, d'autres événements se sont greffés à nos vies, en des lieux qui pourtant inspirent la tranquillité et le respect. L'Université de Concordia, le Collège Dawson, la Mosquée de Québec. Ces événements qui emportent des vies et transforment les nôtres à tout jamais sont toujours liés à une arme. Si au Canada les avis sont partagés, de plus en plus de gens sont soucieux d'obtenir une gestion moderne et efficace de ces objets, toujours associés au risque d'une fin de vie. Il y a 10 ans, avant l'arrivée d'un gouvernement rétrograde appuyé par un lobby malsain, la société canadienne avait su se doter de nouvelles lois encourageant la responsabilité des détenteurs d'armes à feu, et ce, de façon respectueuse. En effet, les coûts associés à la modernisation des lois canadiennes en matière d'armes et l'établissement du registre ont été assumés par l'ensemble de la population, pas seulement par les propriétaires d'armes à feu. Et c'est très bien ainsi, car la sécurité publique est un devoir collectif. Dans une société démocratique, toutes les parties doivent être représentées et écoutées, mais toutes les parties doivent s'engager vers un but commun, le maintien de la paix et de la sécurité publique pour tous et toutes. Maud Aviernik, est une des 14 victimes de la tragédie de l'École polytechnique et c'était un texte de sa sœur Sylvie. 6 décembre 1989, une date qui dérange. Ici Hélène Denis, un grand merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Un grand merci aussi à Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Et on se retrouve au Par Actualité dans 2-3 minutes. Sinon, à une prochaine. Bonne journée.